Kiosque Magazine.
Bonjour, je m'appelle Marie Lalande. Bienvenue à Kiosque Magazine du mardi 10 mars 2015, l'émission où on vous parle de voyage, de nature et de science. Avec vous aujourd'hui, Yvan Deslauriers. Bonjour Yvan.
Bonjour Marie.
Et donc, Yvan et moi, alors nous sommes le petit couple à nouveau. Il y a deux semaines, André était à Fon, André-Étienne était à Fon et Michel Audet était au show quelque part en vacances. Et bien cette semaine, c'est l'inverse.
C'est l'inverse. Alors nous... On emmagasine maintenant les médicaments à la maison et puis on commence à se chercher pour des billets d'avion.
Oui, et on espère, oui, c'est ça. Alors, on espère les revoir tous les deux la semaine prochaine et on les salue. Yvan, tu nous présentes quoi ce matin?
Dans mon cas, je présente trois sujets très différents les uns des autres. Dans le premier cas, il s'agit de regarder au-delà des barrages, considérer d'autres formes d'énergie renouvelable. Dans un deuxième cas, ben là, je m'en vais vers une de mes passions, qui est le vélo, et je vous amène à Santa Barbara pour rouler et faire d'autres choses. Et finalement, on s'en retourne dans l'espace pour regarder la mission Dawn, qui a pour but d'étudier une planète naine, Cérès. Et toi maintenant, Marie?
Alors moi, je vais vous parler d'abord du phénomène de vagabondage des chats au Québec. Ensuite, je vais vous présenter quelques conseils utiles pour louer un chalet sans tracas. Et tout de suite après la pause, pour rester dans le ton, dimanche, c'était le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Donc, je vais vous parler de la place des femmes dans les technologies. Alors, où sont les femmes dans les technologies? C'est un article qui a été écrit par Catherine Matisse, d'un billet publié le 6 mars 2015 dans Triplex, le blog techno de Radio-Canada. Au lendemain de la Journée internationale des femmes, Catherine Matisse s'intéresse à la place des femmes dans les technologies. À lire certains articles publiés dans les dernières semaines, on en vient à se demander comment la mentalité d'un milieu qui cultive l'avenir peut être, à l'inverse, aussi rétrograde. Où sont les femmes? Le magazine Newsweek s'est penché sur la question ces dernières semaines. Force est de reconnaître que la Silicon Valley n'a jamais produit de Madame Gates ou Zuckerberg. Bien sûr, certaines femmes se sont taillées des places enviables comme Meg Whitman, qui est PDG de Hewlett-Packard, Sheryl Sandberg, qui est numéro 2 de Facebook, ou encore Marissa Mayer, qui est PDG de Yahoo. Mais elles sont bien peu nombreuses et ces femmes ont pris la tête d'entreprises déjà existantes. L'article dresse un portrait plus sombre de la situation où la misogynie est érigée en système. Menaces de violence, blagues sexistes, recrutement et licenciement fondés sur le genre, procès pour harcèlement sexuel et structures de financement qui privilégient toujours le même modèle de jeunes hommes entrepreneurs. Un récent rapport de la Fondation Kauffman décrit les principaux défis auxquels les entrepreneurs font face. Parmi les obstacles cités, on retrouvait surtout les difficultés de trouver du financement. Près de 80 % des 350 femmes interviewées ont utilisé leur argent pour lancer leur entreprise. C'est que les firmes de capital de risque sont composées à 96 % d'hommes. Il y a 20 ans, c'était 97 %.
Il n'y a pas eu
beaucoup de changements. Les cinq premières les entreprises ne comptent aucune femme parmi les partenaires principaux. Résultat, il semblerait que les projets menés par des femmes soient tout simplement mis de côté. Selon une étude citée dans l'article de Newsweek, seulement 2,7 des entreprises qui ont reçu du capital de risque entre 2011 et 2013 étaient menées par des femmes. Pourtant, le rapport Kauffman, cité précédemment, mentionne que les entreprises en démarrage dirigées par des femmes ont un retour sur investissement plus élevé de 31 %. On parle d'une culture bien implantée, même chez les femmes. Quand un milieu est créé pour et par de jeunes hommes blancs de classe moyenne, les technologies qu'ils conçoivent reflètent davantage leurs besoins et leurs centres d'intérêt. Newsweek cite l'exemple de Siri, l'assistant vocal d'Apple, qui, jusqu'en 2011, pouvait fournir à ses utilisateurs une prostituée ou du Viagra, mais pas d'adresse de clinique d'avortement. Ceux et celles qui osent dénoncer le déséquilibre des genres sont souvent menacés. On pense à Anita Sarkeesian, qui a tenté de renverser la vapeur en dénonçant le sexisme inhérent aux jeux vidéo.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Mme Sarkeesian?
Alors, elle a reçu sur son compte Twitter une quantité de messages d'insultes de toutes sortes assez impressionnants et regrettables, disons-le. Toutefois, n'allez pas penser qu'il n'y a que les hommes qui entretiennent ce système misogyne. Les quelques femmes qui se sont rendues au sommet ne sont pas des exemples de féministes convaincus. Dans une récente entrevue, Marissa Mayer, qui est PDG de Yahoo, mentionnait que dans l'industrie des technologies, le genre n'était pas important. Bien sûr, son commentaire n'est pas passé inaperçu. Dans les jours qui ont suivi, les réponses ont déferlé, dont celle de la journaliste Gillian Berman, qui a été publiée dans le Huffington Post. Dans son article, elle énumère les raisons pour lesquelles les questions reliées au genre sont à la fois difficiles à éviter et centrales à bien des aspects de l'industrie, à commencer par le nombre de femmes parmi les employés. Des géants comme Google, Apple et Facebook ne comptent bien souvent pas plus de 30 % de femmes dans leurs effectifs. Cela dit, il faut le mentionner, certaines entreprises font des efforts, par exemple Intel, qui investit dans le recrutement de femmes et de minorités visibles. Malgré certains efforts, les femmes qui parviennent à se tailler une place dans le domaine ne semblent pas rester longtemps. La journaliste du Huffington Post fait référence à une étude qui indique que le nombre de femmes œuvrant dans les technologies qui s'en vont après 10 ans s'élèverait à 41 % contre 17 % chez les hommes. Parmi les principaux facteurs figurent notamment l'environnement de travail hostile. De plus, les disparités salariales n'aident bien sûr en rien. Dans la Silicon Valley, les femmes diplômées gagnent de 40 à 73 % de moins que leurs collègues masculins.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Le PDG de Microsoft a dit l'an dernier que les femmes ne devraient pas demander d'augmentation de salaire et qu'elles recevraient ce qu'elles méritaient. Oui, bien qu'il se soit rétracté par la suite, on sent bien dans ses propos et ceux de bien des acteurs de la Silicon Valley que la culture misogyne est malheureusement bien incrustée dans les mentalités et le système en place. Alors, je rappelle que c'était un billet de Catherine Matisse, publié le 6 mars dans Triplex, le blog techno de Radio-Canada.
Côté, je vais vous lire un extrait de l'article « Voir au-delà des barrages », article publié le 28 février 2015 par Pierre Vallée dans le cahier spécial « Développement durable » du journal Le Devoir. Les principaux acteurs de l'énergie renouvelable au Québec sont aujourd'hui réunis au sein de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Nos membres proviennent de tous les secteurs de l'énergie renouvelable, explique Jean-François Samaré, le président-directeur général de l'association. Nous comptons donc dans nos rangs des producteurs d'énergie renouvelable, des centres de recherche, des équipementiers et même des services financiers. Sur le plan énergétique, le Québec a le privilège de produire la quasi-totalité de son électricité par le biais de centrales hydroélectriques, dont la grande majorité sont la propriété de la Société d'État Hydro-Québec. L'électricité ainsi produite est renouvelable et reconnue comme éco-responsable. Ce privilège nuit-il au développement des autres filières d'énergie renouvelable? Il faut d'abord faire la distinction entre l'électricité et l'énergie, rappelle Jean-François Samaré. Si le Québec a la chance de produire son électricité de façon responsable par le biais de la filière hydroélectrique, il ne faudrait pas oublier que le Québec importe toujours 50 % de l'énergie qu'il consomme sous forme de pétrole, de gaz naturel ou de charbon. Cette donnée, à ses yeux, est suffisante pour justifier le développement des autres filières d'énergie renouvelable. D'une part, en renforçant les autres secteurs d'énergie renouvelable, on réduit d'autant nos importations, ce qui favorise la balance commerciale du Québec. D'autre part, cela contribue à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on s'éloigne ainsi des énergies fossiles.
Je sens que tu vas nous parler de l'énergie éolienne.
Effectivement. Cette année, une fois en service, les nouvelles installations requises à la suite des derniers appels d'offres d'Hydro-Québec, le Québec disposera d'une production d'électricité de sources éoliennes de 4000 MW, soit 10 % de l'actuelle production d'Hydro-Québec. Par contre, les détracteurs de cette filière ont pour argument que le coût de production de l'électricité de sources éoliennes est trop élevé et que, par conséquent, Hydro-Québec y perd au change lorsqu'elle en fait l'acquisition, puisqu'elle devra la vendre à prix inférieur. Cette situation était vraie lors des derniers appels d'offres d'Hydro-Québec, mais ce n'est plus le cas. D'abord, la filière éolienne a depuis fait des gains d'efficacité. Et ensuite, comme les derniers appels d'offres visaient des livraisons d'électricité plus importantes, cela permet maintenant à la filière éolienne de réaliser des économies d'échelle. Aujourd'hui, le coût de production de l'électricité de source éolienne avoisine celui des nouvelles centrales hydroélectriques comme celle sur la Romaine.
Est-ce qu'il y a d'autres formes d'énergie renouvelable?
Oui, effectivement, il y en a d'autres. Parlons par exemple de la biomasse, particulièrement celle produite à partir des résidus forestiers. Ça semble offrir une voie prometteuse pour le Québec. Nous ne manquons pas de résidus forestiers au Québec et l'industrie forestière arrive mal à les valoriser, ce que permet leur utilisation comme biomasse, surtout si celle-ci sert au chauffage. Les biocarburants comme le biodiesel ont aussi pris du galon. Et la fabrication de ces biocarburants n'emprunte plus seulement la voie agricole, comme la fabrication d'éthanol à partir du maïs, mais elle passe de plus en plus par l'utilisation des graisses animales et végétales. La preuve de la popularité et de la valeur grandissante de cette nouvelle filière repose sur l'intérêt que les voleurs portent aux huiles de friture entreposées par les restaurants. Une autre filière qui est appelée à se développer, c'est celle des biogaz, produits à partir de matières putrescibles comme les déchets de table. C'est une solution que les municipalités commencent à regarder. Il est même possible de faire des biogaz avec les rejets d'épuration des eaux. Jean-François Samré croit qu'il faut envisager le développement des énergies renouvelables sans vouloir y imposer une seule manière de faire. Il n'y a pas de solution mur à mur ici. Si certaines productions d'énergie renouvelable, comme l'électricité de sources éoliennes ou la production de biogaz, comme la biométhanisation, méritent d'être connectées à de grands réseaux de distribution, d'autres énergies renouvelables peuvent fort bien fonctionner en circuit fermé. Par exemple, les résidus forestiers d'une entreprise forestière pourraient uniquement servir à chauffer la scierie et les bâtiments. En plus des avantages écologiques et macroéconomiques, l'énergie renouvelable présente aussi d'autres avantages. L'un de ces avantages immédiats de l'énergie renouvelable, c'est que lorsqu'on implante une filière dans une collectivité, on la dynamise, parce que cela va créer de l'emploi. On ne peut pas négliger l'impact de ces nouveaux emplois sur les collectivités. Il faut se rappeler que l'énergie est essentielle à notre fonctionnement et à notre économie, et il n'est jamais sage de mettre tous ses œufs dans le même panier. Que faire si on est trop dépendant d'une seule source d'énergie et qu'il y a une pénurie? Les diverses formes d'énergie renouvelable nous permettent alors de pallier à cette pénurie et ainsi de diversifier notre portefeuille énergétique. De plus, la présence d'un solide secteur d'énergie renouvelable offre même des avantages internationaux. On développe alors une expertise et un savoir-faire, ainsi que des innovations technologiques qui ensuite pourront être exportées. Le Québec aurait tout avantage à être un précurseur en la matière.
Tout à fait.
C'était l'article « Voir au-delà des barrages », publié le 28 février 2015 par Pierre Vallée, dans le cahier spécial « Développement durable » du journal Le Devoir.
On apprivoise pas les chasseurs. sauvage. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. En jasant d'amour et de liberté, on n'emprisonne pas les cœurs volages, pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. Faut les laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Marche seul et non qu'un seul langage, celui de l'amour, celui de la vie. Il chante pour toi si t'en as envie.
Très jolie version de Chat sauvage par les sœurs Boulay.
Est-ce que je peux être en amour avec les sœurs Boulay?
Oui, tu peux.
OK.
Alors, dans le même, sur le même thème, un article dont le titre est « 360 000 chats vagabondes au Québec ». C'est un article de Stéphanie Vallée, publié le 2 mars 2015 dans la section « Pause famille » de la Presse Plus. Depuis maintenant 3 ans, le 26 février est désormais la Journée internationale de la stérilisation animale au Québec. C'est également l'occasion pour l'Association des médecins vétérinaires du Québec, la MVQ, de dévoiler les résultats d'un nouveau sondage. Cette année, c'est le vagabondage félin et l'identification des chats qui ont été passés à la loupe. Le docteur Michel Pépin, qui est vétérinaire, nous dit « On entend souvent qu'il y a 500 000 chats dans les rues de Montréal, mais on n'a jamais pu avoir des chiffres fiables en la matière. On a donc voulu évaluer combien de chats sont laissés en liberté à Montréal par leur maître. Il faut en effet faire la différence entre un chat errant et un chat qui vagabonde. Les résultats obtenus ont permis de découvrir que près de 4 ménages sur 10, soit 39 % laissent sortir leurs chats à l'extérieur, dont 7 % sont attachés et 8 % selon leur propriétaire, évidemment, ne circuleraient que sur la propriété.
Ça, je suis curieux de voir comment il peut vérifier ça.
Ah, ça, par exemple, j'ai pas de clarification à ce propos-là. Les restes, les 24 % restants obtiennent ainsi la permission de vagabonder dans le voisinage en fonction de la journée ou de la saison. En tenant compte que les foyers québécois possèdent approximativement 1,5 million de chats, cela signifie qu'environ 360 000 d'entre eux ont le loisir de vagabonder dans le voisinage. Si vous permettez à votre chat de sortir en liberté, sachez d'abord que tous ces vaccins doivent être à jour, mais surtout, assurez-vous qu'ils soient bien identifiés. Le sondage de la MVQ montre en effet que la moitié des minous vagabonds n'ont aucune identification. Le vétérinaire de la MVQ nous dit « Si la moitié des chats qui vont dehors ne sont pas identifiés, c'est un problème. Ils peuvent se perdre, se retrouver dans une fourrière, ne jamais être identifiés et être euthanasiés. Si vous laissez votre chat aller dehors, identifiez-le. » Les propriétaires qui font sciemment ce choix doivent savoir que cela réduit l'espérance de vie de leurs compagnons et accroît ses risques de contracter des maladies ou de subir des accidents. De plus, si leur animal n'est pas stérilisé, ces escapades peuvent participer à la surpopulation de chats non désirés qui finissent leur vie dans les refuges ou pire, dans la rue. Lors d'un précédent sondage Léger Marketing mené en 2012, les résultats ont montré que 95 % des chats adultes ayant un propriétaire étaient stérilisés. Malgré tout, les chats représentent environ 70 % des animaux reçus par les SPA et les SPCA. Fort heureusement, la seconde portion des foyers ayant des chats qui sortent de la maison leur installe un collier ou leur font implanter une micropuce les identifiant ou du moins indiquant qu'ils ont une demeure. Selon l'étude, les chats identifiés ont en moyenne 1,2 marques d'identification. Les plus populaires demeurent les colliers avec identification écrite chez 20 % des chats. Mais par la suite, il y a ceux portant une médaille ou une licence de la municipalité, puis les colliers sans identification. Seulement 5 % ont une micropuce d'identification et 4 % un collier avec une médaille de rage. En 2011, une étude menée dans la région urbaine de Champaign, dans l'Illinois aux États-Unis, avait observé les déplacements des chats domestiques lors de leur sortie en équipant des félins de colliers avec des émetteurs radio. Après avoir suivi les chats pendant 16 mois, les chercheurs ont remarqué que les chats de maison se sont promenés sur une zone de 2 hectares.
2 hectares, ça veut dire quoi au juste?
2 hectares, ça, c'est l'équivalent de 0,02 km² ou 20 000 m². En fait, c'est donc l'équivalent d'un terrain d'environ 140 mètres par 140 mètres.
OK.
Sur une base quotidienne, le sommeil ou le fait de s'asseoir calmement représenterait 80 % de leur temps. Alors, on voudrait avoir une vie de chat. Dans un plus petit échantillon de 39 chats, les chercheurs ont précisé qu'un seul chat parmi les 12 ayant un foyer est mort pendant la période d'étude après avoir été frappé par une voiture. Donc, la question « laisser son chat sortir ou non? » On entre ici au cœur de tout un débat. Une chose est certaine, la surpopulation présente en ville pourrait causer de graves problèmes de santé et de comportement chez votre chat. Il se retrouve en conflit à chaque sortie avec les autres chats. Mais le choix revient bien sûr à chaque propriétaire. Il est important, dans tous les cas, de compenser tout manque d'activité. Le chat doit jouer 3 fois par jour à raison de 5 à 10 minutes. À la campagne, pas de problème à le laisser aller dehors, mais jamais avant 6 ou 7 mois, précise un autre spécialiste, le comportementaliste félin Daniel Filion. Je rappelle que c'était un article de Stéphanie Vallet, publié le 2 mars, dans la section « Pause famille » de La Presse Plus.
Alors, je vais commencer à vous parler beaucoup de vélo et ça commence par une formule de voyage à essayer. Ça s'appelle Vélo-Bateau et c'est offert par la compagnie Équilibre. Équilibre, ça s'écrit E-K-I-L-I-B. Les voyages vélo-bateau organisés par Équilibre piquent la curiosité. dans les voyages de vélo. L'offre est surtout du côté du vélo de route, avec beaucoup de kilomètres à parcourir par jour, explique Donald Audet, chef de produit Amérique du Nord pour Équilibre. Mais tous les gens ne font pas du vélo de cette façon, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
En vélo-bateau, on fait de 30 à 50 kilomètres par jour. Ça va t'intéresser, ça. Ce sont des circuits plus faciles pour monsieur et madame tout le monde. Les voyageurs logent dans une péniche de 20 à 30 cabines qui les suit et n'ont pas donc à faire leur valise tous les jours. C'est étonnant le nombre de personnes que ça rejoint, raconte M. Audet. Une dame de 75 ans, ça c'est pas ton cas, vient de s'inscrire. On trouve parmi les destinations offertes en vélo-bateau la Hollande, l'Italie, les abords du Danube et la France. Alors si un mardi on n'est pas là, on est peut-être en train de faire du vélo-bateau.
Alors, on reste dans le domaine des chats. Un chat aux allures de koala. Ce félin, dont les oreilles peuvent faire penser à celles d'un éléphant, d'une chauve-souris ou d'un koala, est en réalité un siamois. Ses grandes oreilles soulèvent la question des hypertypes, selon Catherine Bastide, directrice de la Fédération pour la gestion du livre officiel des races félines en France. Au fil des ans, les individus d'une même race de chat ou de chien présentent des caractéristiques distinctives. Certaines caractéristiques recherchées mènent à une sélection à outrance des individus d'une race et à la production de ce que l'on appelle des hypertypes.
Alors, coup de pédale, présenté au Salon de l'électronique de Las Vegas. La pédale intelligente mise au point par la société Connected Cycle permet de localiser votre vélo grâce à une puce GPS. En prime, elle calcule les calories brûlées et votre vitesse, en plus de vous indiquer le chemin et l'inclinaison de la route. Dernier détail, elle se recharge à chaque coup de pédale. Après la pause, on revient avec un voyage à Santa Barbara dans l'espace et
Marie nous parle d'un chalet, de la location d'un chalet.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Rebonjour. Alors, enfin, maintenant, on s'en va à vélo. Il fait plus chaud. Ouais, il va peut-être faire un petit peu plus chaud. Alors,
ça s'en vient.
Oui, les jambes vont commencer à me gigoter. Vélo et Dolce Vita. Je vous présente les extraits d'un texte de Martin Chamberlain qui était dans Vélo Mag de mars 2015. Compte en commun un sac de café et une vertigineuse montée d'une vingtaine de bornes localisée à Santa Barbara, en Californie. Certes, les deux sont corsés, mais ce n'est pas tout. Le sac de café en question, torréfié par Handlebar Coffee Roasters à Santa Barbara, a été baptisé en l'honneur de Gibraltar Road et de son sommet, la Cumbre, qui culmine à 1215 mètres. Je vous conseille un bon Gibraltar. Avant de monter pour le coup de fouet et après pour récupérer.
Moi, je vais prendre seulement le café.
Ah oui?
Oui.
Ah bon. Situé à 2 heures de voiture au nord de Los Angeles, Santa Barbara, 89 000 habitants, a de quoi plaire aux yeux, au nez, à la bouche, mais surtout aux jambes. C'est une ville magnifique aux multiples visages, notamment en raison de son architecture mexicaine. Ce n'est pas pour rien qu'un grand nombre d'illustres cyclistes s'y retrouvent chaque année. Le temps d'un entraînement, d'une course ou d'une vie. Et quoi de mieux après la sortie de vélo que d'aller reposer ses mollets sur le sable de la plage, car en effet, Santa Barbara donne sur l'océan. Le paradis, vous dites? Ce n'est pas non plus pour rien qu'Aaron Olson, cycliste professionnel de haut niveau et retraité depuis peu, y a jeté l'ancre en 2007. Aaron est maintenant propriétaire du café Handlebar Coffee Roasters avec sa conjointe, également ex-pro. Il torréfie lui-même son café, derrière la machine à torréfaction, on aperçoit au mur des maillots qu'il a portés lors de ses deux giros, des photos, des sacs de café. Lorsqu'Aaron parle de sa carrière, il souligne une victoire d'étape en solo au Tour de Beauce de 2004. Il se souvient d'avoir adoré la bière La Maudite, moi aussi d'ailleurs, qu'il trouve aussi bonne que les bières belges. Heureusement pour lui, elle est vendue à l'épicerie Lazy Acres à Santa Barbara. Handlebar Coffee Roasters n'est pas seulement un café, c'est également le point de rencontre des cyclistes de la ville qui s'y retrouvent tout autant avant qu'après les sorties. Si vous avez la fâcheuse habitude de vous perdre, vous n'aurez qu'à vous rendre au quai en bord de mer, le Stearns Wharf, devant la statue du dauphin. Des sorties, dont c'est le point de départ, sont organisées trois fois par semaine. On y retrouve un melting pot amical de gens mal bronzés. Là, tu vas me reconnaître un peu. Le journaliste y a rencontré Francisco Diaz, un jeune retraité montréalais qui s'y exile 6 mois par année pour rouler. « J'ai découvert Santa Barbara par chance », explique-t-il. « Je ne faisais que passer, j'ai commencé à rouler, j'ai découvert de belles routes en m'aidant d'une carte que m'a donnée une boutique de vélo. Un jour, j'ai cassé un rayon que j'ai réussi à remplacer à la boutique de vélo Fast Track. J'en ai profité pour demander s'il y avait des sorties de groupe et on m'a dit que oui. Je suis finalement resté 4 mois. » Francisco ne se contente pas de pédaler. Il randonne dans les montagnes avoisinantes et sur les plages presque désertes connues des gens du coin, en plus de déguster les bières locales dans des micro-brasseries et les vins dans les vignobles.
Oui, bien ça, c'est des randonnées que j'aimerais faire.
Si vous n'aimez pas transporter votre vélo, il vous reste la solution de louer sur place. Le journaliste suggère fortement d'aller à la rencontre de Dave Lethierry. Lethierry, natif de Pennsylvanie, a lui aussi choisi de déposer ses valises à Santa Barbara. C'est lorsqu'il était à Los Angeles qu'il a entendu parler de Santa Barbara, une ville voisine où tous les cyclistes convergent. Il y a fait de multiples voyages au cours de ses années d'études à Los Angeles. Petit à petit, il s'est pris d'affection pour la ville. Tout cycliste qui passe par Santa Barbara se doit d'aller rouler en compagnie de Dave ou du moins d'entrer dans sa boutique Fast Track Bicycle. C'est ainsi que la vedette montante, Lance Armstrong, à la suite de son cancer en 1997, se rend à Santa Barbara pour reprendre des forces. Il rencontre Dave et ils deviennent amis. En 2000, Armstrong invite Lethierry sur le Tour de France comme mécano, ce qui est pour ce dernier une sorte de consécration et un souvenir impérissable. Dave est toujours ami avec Lance et ces deux-là s'écrivent encore des courriels de temps à autre. Dave tient quand même à dire qu'il n'a jamais été mis au courant de toute l'histoire de dopage, comme s'il craignait de se voir reprocher d'avoir participé à la chose. Il précise qu'il a même remercié Lance de l'avoir tenu à l'écart de tout ça. Santa Barbara a des adeptes bien au-delà des frontières des États-Unis. Et le journaliste en tient pour preuve l'anecdote suivante. En 2013, je roulais la fameuse Gibraltar Road. J'aperçois un cycliste de l'autre côté de la route. En me voyant, il lève la main pour me signifier qu'il aimerait me parler. En discutant avec lui, l'accent britannique me confirme qu'il n'est pas de Santa Barbara. Après lui avoir donné quelques indications pour l'aider à retrouver son chemin, je lui demande enfin qui il est. « Dave Brailsford, le coach de l'équipe Sky », répondit-il. « J'arrive tout juste du Tour de France que mon équipe a gagné. » Il venait passer ses vacances loin du brouhaha et des foules de l'Europe dans une ville paisible, où il fait bon manger, rouler et pourquoi pas se rincer la bouche avec un pinot noir.
Pourquoi pas?
Je vous ai lu des extraits de « Vélo et Dolce Vita », un texte de Martin Chamberlain dans « Vélo Mag » de mars 2015.
Si on veut rester au Québec ou ailleurs, de
j'écoute
toute façon.
Beaucoup, là.
Oui. Louer un chalet sans tracas, un article de Fabienne Couturier, publié le 7 mars 2015 dans la section Voyage de la Presse Plus. que l'on recherche un chalet écologique, de montagne ou avec vue sur la mer, il faut être conscient que l'on n'est pas nécessairement à l'abri des mauvaises surprises. Pour les éviter, il faut prendre quelques précautions. L'été approche, c'est du moins ce que dit le calendrier. Il sera bientôt temps de songer aux vacances. Trop tôt? Non. Si on a l'intention de louer un chalet, que ce soit pour 2 semaines ou pour l'été, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Sur les différents sites qui mettent en contact loueurs et locataires, de grands pans de juillet et d'août sont déjà rayés dans les calendriers de location. Bon, ce n'est pas une règle absolue. Il y a tant d'offres sur le marché qu'on finit toujours par trouver, même à la dernière minute, mais souvent, justement, à des prix de dernière minute. Il faut toutefois s'armer de patience pour écumer les sites spécialisés qui sont légion. Louer un chalet à distance, ne risque-t-on pas de se retrouver dans une cabane squattée par les souris près d'un marécage infesté de moustiques ou au bord d'un lac qui sert d'autoroute aux motomarines?
T'aimerais ça, hein, que je fasse ça.
Pas tellement, non. Certes, les mauvaises surprises, bien qu'elles soient rares, peuvent gâcher un séjour.
Alors, comment on fait pour éviter les mauvaises surprises, justement?
Alors, quelques suggestions. Passez par un site web sérieux comme Airbnb ou Flipkey, ça s'écrit F-L-I-P-K-E-Y, permet en général d'éviter les désagréments. Il y a des photos en abondance. On peut y lire les commentaires de clients, c'est déjà un bon indicateur. Le paiement est sécurisé et il existe souvent, à certaines conditions, une politique de remboursement, voire de conciliation, en cas d'accroc majeur au contrat. Par exemple, la non-disponibilité du chalet, des bris, des différences marquées entre l'annonce et la réalité. D'autres sites comme RSVP Chalet, chalet avec un S.com, ou chalaisauquebec.com n'offrent pas autant de services, mais leurs annonces sont bien structurées, donnent un maximum d'informations et contiennent beaucoup de photos. Il appartient toutefois au client de faire les vérifications qu'il juge nécessaires et la transaction repose entièrement entre ses mains et celles du loueur. Donc, dans tous les cas, s'informer. Les choses peuvent être un peu plus compliquées lorsqu'on passe par les petites annonces. Il ne faut pas hésiter à demander au proprio des photos supplémentaires et à lui poser des questions sur les choses que les images ne révèlent pas. Si l'on est allergique aux pétarades, par exemple, on fera bien de lui demander si les embarcations à moteur sont permises sur le lac ou si une piste de quad passe dans la cuisine. Un petit tour sur Google Earth vous renseignera sur la proximité des voisins, d'un marécage ou d'une route trop passante. Cette adorable maisonnette au bord du fleuve dans le Bas-Saint-Laurent offerte pour une bouchée de pain vous garantit des nuits cauchemardesques si elle se trouve aussi au bord de la route 132 où les poids lourds roulent à tombeau ouvert de jour comme de nuit. Enfin, mieux vaut s'informer de ce qui est fourni avec la location. Literie, serviettes et torchons, cafetière, vaisselle, barbecue, etc. Cela peut paraître pointilleux, mais il arrive parfois que le barbecue soit fourni par exemple, mais non le gaz.
Mon Dieu, qu'est-ce que je ferais?
Qu'est-ce qu'on ferait, hein? Ou alors que la cuisine soit cruellement dépourvue du minimum nécessaire à un cuistot moyen. Évidemment, c'est un inconvénient auquel le vacancier prévoyant peut facilement remédier en emportant sa trousse de secours. Une bonne poêle, la cafetière espresso.
La cafetière espresso, c'est dans la trousse de secours, ça?
Mais pour moi, particulièrement, un couteau qui coupe, un tire-bouchon digne de ce nom, ça c'est dans la trousse de secours.
Oui, ça, on lâche pas ça.
Alors, l'indispensable. Quoi? Dans tous les cas, un contrat qui précise le loyer, les dates du séjour, ce qui est inclus dans la location, les conditions d'annulation et les coordonnées de la personne à joindre en cas de problème est toujours une bonne idée. Je rappelle les différents sites qui peuvent être consultés sur le web. Le site Flipkey, mais qui est en anglais seulement. Celui de Airbnb. Le site RSVP Chalet, chalet avec un S.com. Et le site de chalaisauquebec.com. C'était un article de Fabienne Couturier, publié dans la section Voyage de la Presse Plus le 7 mars 2015.
Alors, merci pour cette chanson « Tout petit, la planète » de Plastic Bertrand. On dirait que tu connais un peu notre âge pour avoir sorti cette chanson-là. Enfin, on s'en va dans l'espace, justement. C'est un article que j'ai trouvé sur le site Le Point, comme le journal Le Point en France, qui a été publié le 6 mars dernier. Et qui s'intitule « Espace, la sonde Dawn, D-A-W-N, en orbite autour de Cérès ». Et non pas Xérès, pour ceux qui aiment le vin. Alors, Dawn entame ainsi 16 mois d'exploration rapprochée de Cérès, ce qui devrait permettre d'en percer les mystères et de mieux comprendre la formation du système solaire.
Cette fois-ci, par contre, on n'exploite pas une météorite, n'est-ce pas?
Effectivement, on s'éloigne là de ce que je vous ai lu la semaine dernière sur la sonde qui s'était approchée d'une météorite. Après un périple de 7 ans et demi, la sonde américaine Dawn a réussi vendredi son insertion dans l'orbite de la mystérieuse Cérès et a commencé l'exploitation de la plus petite planète naine du système solaire. D'ailleurs, c'est ça le lien avec la chanson de tantôt. Il s'agit de la première visite d'un vaisseau automatique autour d'un tel corps céleste. La sonde va entamer 16 mois d'exploration rapprochée de Cérès, ce qui devrait permettre d'en percer les mystères et de mieux comprendre la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années.
On n'était pas nés.
Non, même pas proche. Dawn a été capturée par la gravité de Cérès à environ 12h39 heure GMT, alors qu'elle se trouvait à 61 000 km de la planète. C'est quand même
impressionnant.
Un bon aimant qui tire sur quelque chose. Après avoir parcouru 4,9 milliards de kilomètres, c'est tout un voyage, ça a duré 7 ans et demi, Dawn est arrivée à sa nouvelle destination, a annoncé vendredi Mark Rayman, directeur de la mission. Depuis sa découverte en 1801, Cérès a été tour à tour considérée comme une planète à part entière, puis un astéroïde et désormais une planète naine. Sur les trois actuellement connus dans notre système solaire, dont Pluton, a-t-il ajouté. L'étude de Cérès nous permet de remonter dans l'histoire de l'espace et les données recueillies par Dawn pourraient aboutir à des percées importantes dans la compréhension de la formation du système solaire. Il s'agit de la première sonde à explorer d'aussi près une planète naine. Le plus gros objet connu de la ceinture d'astéroïdes du système solaire, situé entre les orbites de Mars et de Jupiter. Les plus récentes images de Cérès prises par Dawn ont révélé de nombreux cratères et deux points exceptionnellement brillants, proches l'un de l'autre, que les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer.
Comme deux phares de voiture, finalement.
Oui, c'est ça. Alors, probablement que Dawn est attiré par les phares de voiture.
Mmh.
L'équipe de Dawn est vraiment enthousiasmée par ce phénomène unique dans le système solaire. Nous a récemment dit un responsable scientifique de la mission. Nous pourrons en expliquer l'origine quand nous nous rapprocherons de Cérès et le mystère sera alors résolu, a-t-elle ajouté devant la presse, indiquant que ces points inhabituellement lumineux pourraient être la réflexion de glace ou de sel. Cette scientifique a aussi estimé que Cérès pourrait également abriter des micro-organismes. Des émissions localisées et intermittentes de vapeur d'eau avaient été détectées pour la première fois autour de Cérès entre 2012 et 2013 par le puissant télescope spatial européen Herschel. Cérès relâche de la vapeur d'eau à raison de 6 kg par seconde, selon les astronomes de l'Agence spatiale européenne. Il s'agissait de la première détection de vapeur d'eau autour d'un astéroïde, avaient alors souligné ces scientifiques sans lien avec la mission Dawn. Alors que Dawn s'approchera de plus en plus de Cérès, dont le diamètre est de 950 km, les chercheurs rechercheront des indications d'une activité géologique. Dans une première étape, la sonde se rapprochera de Cérès sur une orbite polaire à 13 500 km avant de la survoler au plus près à environ 375 km à la fin de novembre. Avant d'aller étudier Cérès, Dawn, qui pèse 1,2 tonnes, avait exploré Vesta, un des plus gros astéroïdes du système solaire, autour duquel elle est restée en orbite un an à partir de juillet 2011. Vesta, c'est un grand rocher de forme irrégulière, sans trace d'eau, avec un noyau de fer d'un diamètre moyen de 520 km. Lancée en 2007, ça fait quand même 8 ans, Dawn, une mission de 473 millions de dollars, est notamment équipée d'une caméra à très haute définition, de 2 spectromètres. Elle est dotée d'un moteur électrique à propulsion ionique qui assure une poussée constante permettant d'atteindre de très grandes vitesses. Outre Dawn, la NASA s'apprête à explorer Pluton, deuxième plus grande planète naine du système solaire après Eris. La sonde New Horizons, lancée en 2006, continue à s'en approcher et passera au plus près vers le 14 juillet. La sonde ne pourra pas se mettre en orbite autour de Pluton en raison de la nature de son atmosphère. La NASA va également lancer en 2016 le vaisseau Osiris-Rex pour étudier un grand astéroïde et ramener des échantillons sur la Terre. L'une des grandes priorités de la NASA est de traquer les astéroïdes dont l'orbite passe près de la Terre et de développer des techniques de protection de notre planète contre une éventuelle collision catastrophique. C'était un extrait de l'article « Espace, la sonde Dawn en orbite autour de Cérès » qui a été publié dans le site Le Point le 6 mars 2015.
On reste dans le monde de l'extraterrestre, mais au niveau de la fiction. Le parc d'attractions consacré à Avatar se dévoile. Disney a publié une vidéo dévoilant les premiers croquis de son parc Pandora, The Land of Avatar, consacré au film de James Cameron. L'attraction doit prendre place au Walt Disney World Resort en Floride en 2017. Cette première vidéo laisse imaginer le paysage fantastique que les spectateurs ont découvert dans le long métrage de James Cameron, à commencer par les sculptures de verdure gigantesques. Plusieurs attractions doivent composer ce nouvel univers, dont un manège aquatique, un simulateur de vol et des événements nocturnes.
Oh là là! Alors, moi, de mon côté, je reviens évidemment au vélo et je vous propose un vélo à meilleur coût. Après bien des péripéties, le vélo en carton est à la veille d'envahir les rues des pays à faible revenu. L'Israélien Isaac Gafni a conçu un vélo au coût modeste d'une dizaine de dollars. Une fois plié aux bons endroits, la structure de carton est trempée dans la résine puis recouverte d'une couche de peinture afin d'assurer sa résistance à l'humidité.
C'est fascinant. Des bonbons pour le cœur, ou un bonbon pour le cœur. Pour prendre soin de votre santé cardiovasculaire, les fibres sont vos alliés. Le son d'avoine, principalement constitué de fibres solubles, se trouve dans le peloton de tête pour aider à abaisser le taux de cholestérol sanguin. Selon un article publié en 2011 dans Nutrition Reviews, un apport de 3 g de fibres d'avoine par jour, soit l'équivalent de 3 quarts de tasse ou 175 ml de gruau cuit, procurerait des bienfaits notables. Il en va d'ailleurs de même avec la glycémie, de quoi donner envie de se mettre à l'avoine sur le champ.
Si j'avais fait ce gag-là, tu me l'aurais reproché, je pense.
Oui.
Alors, moi, je retourne évidemment à vélo. Et cette fois-ci, on s'en va en Belgique. La ville de Liège favorise une mobilité plus douce en offrant à 240 de ses concitoyens l'occasion de rouler gratuitement en vélo électrique pendant 2 mois. Le prêt du vélo sera associé à une formation en vue de mieux maîtriser ce nouveau moyen de se déplacer, puisque les bénéficiaires ne sont pas déjà des utilisateurs du vélo.
Plateforme vidéo lancée à Montréal en 2009, goodnesstv.org, permet à diverses organisations non gouvernementales, des ONG, de faire connaître leur travail sur le terrain et même de diffuser du matériel faisant partie de campagnes de financement ou de sensibilisation. Goodness TV produit aussi des reportages sur le thème « La minute positive » et réalise des vidéos à la demande d'organismes privés.
De mon côté, je vous parle du plus long vélo du monde. Et si on construisait le plus long vélo du monde? L'idée est de l'organisateur d'une course importante aux Pays-Bas qui voulait marquer le coup à l'occasion de la 50e édition de sa course, en entrant dans le Guinness Book of Records. Pour être homologué, le vélo devait compter 2 roues, sans stabilisateur, c'est les petites roues en arrière, et parcourir une distance de 100 mètres sans que le cycliste ne mette pied à terre. Pour y parvenir, les concepteurs ont eu l'ingénieuse idée de substituer un rouleau à la roue arrière et ainsi accroître la stabilité du vélo. Piloté par une personne installée à l'avant, le vélo était propulsé par un cycliste assis à l'arrière. Pour la petite histoire, la prouesse a été réalisée durant l'été 2011 au moyen d'un engin de 35,79 mètres de long. Alors, contravention en hausse et coût en baisse, le Conseil national de la sécurité routière a suggéré à l'Assemblée nationale française de baisser le prix des contraventions données aux cyclistes, mais d'en augmenter le nombre. Depuis que ce principe est appliqué à Strasbourg, le nombre d'accidents de vélo a baissé de 37 %. Alors, d'abord, un gros merci à Marie pour m'avoir accompagné pendant cette heure.
Plaisir, plaisir.
Et nous remercions chaleureusement Jean-Sébastien La Liberté qui nous guide dans cette émission. Je vous suggère maintenant le nouveau site www.vuesetvoix.com où, avec un onglet, vous pouvez nous écouter directement à Canal M et vous avez accès aussi à toutes les émissions. On a besoin de vos commentaires, surtout nous deux, et vous pouvez les exprimer au Canal M à commercial vuesetvoix.com. Et on vous laisse à la semaine prochaine.
Bonjour.
Avec André et Daniel, avec André et Michel.